Les Français, à force d'immigration incontrôlée.
Claude Guéant en chevalier blanc de la laïcité.
Le gouvernement déploie du coup 16 000 hommes sur le terrain dès ce
soir. Qu'est-ce que la faillite de la Grèce ?
Choisis de vivre à crédit, il faut qu'il paye.
Et voilà, retour dans nos studios pour troisième partie de Provoscopie en compagnie de Robert Lecoux, de Olivier Le Saec et puis de Emmanuel Clerc. Vous savez, en politique, chacun s'accorde à dire qu'il est plus confortable d'être dans l'opposition que dans une majorité quelle qu'elle soit. Les grandes gueules peuvent s'en donner à cœur joie, critiquer, pinailler, diverger à longueur de travées d'hémicycle, de conférences de presse ou d'interventions médiatiques. Il est alors facile de décliner le yaka ou le faucon. Le centre, les centres, n'aiment pourtant pas en général cette posture. Ils préfèrent être en marge, mais dans le corps dirigeant, quitte à avaler toutes les couleuvres du camp majoritaire. Un seul fait exception, tel un loup solitaire depuis 2007, François Bayrou et son modem. Il fait d'ailleurs figure d'OPNI, objet politique non identifié. Pourquoi serait-ce donc inconfortable pour un centriste de s'opposer, précisément? Ah, parce qu'il est centriste. Pour comprendre ça, il suffirait de faire juste un tout petit peu de mathématiques. Alors, permettez-moi de vous donner une petite leçon de mathématiques. Depuis que le camarade grec Euclide a posé les fondements de la géométrie, chacun a appris, lors de ses études primaires, que toute figure a un centre, représenté par un point. Ce dernier est d'ailleurs un axe de symétrie autour duquel la figure peut basculer. Il en est ainsi du cercle, par exemple. Certes, durant l'ère stalinienne, sous la houlette de Lysenko, l'affaire s'est complexifiée quelque peu en introduisant la notion de relief. La chose n'était pas tout à fait ridicule, car elle permit par rebond d'accéder aux mathématiques fractales. Bon, sachant que si je continue, je vais vous saouler. Enfin, c'est pas grave, il n'est pas interdit de vous cultiver un peu à l'heure apéritive. Reprenons. Le centre désigne plusieurs choses de nature assez diverse, mais que l'on peut considérer en général comme étant le point autour duquel, vers lequel, dans lequel s'opèrent ou se rassemblent certains effets. Mais la chose est d'importance, si la figure se déplace, s'agrandit ou rapetisse, le centre n'est en rien modifié, il suit le mouvement. Au mieux, il l'accompagne. Par contre, si la figure se déforme, le centre se déplace alors afin de rester un centre de gravité. C'est le cas pour certains pendules, par exemple. Alors, le centre n'a de raison d'être que par rapport à la figure concernée. Imaginez ce que ça pourrait donner en politique. Si la droite se droitise, tandis que la gauche reste inamovible, alors le centre bouge vers la droite, s'il veut rester centre de gravité. L'inverse se vérifie aussi. Alors, il semble ne plus être au centre de la figure que nous appellerons le paysage poétique français. Donc, un centre qui prétendrait rester au centre, tandis que la droite ou la gauche progresserait, passerait indubitablement dans un camp ou dans l'autre. Certains, comme le nouveau centre, semblent l'avoir compris. C'est pas le cas du modem. Quant aux radicaux, ils ont mis le doigt sur le problème et ont choisi de botter en touche, au moins provisoirement. Attention, les astrophysiciens ont découvert, il y a quelques lunes, les trous noirs, dont le centre avale toute la matière et crée de l'antimatière. Il serait dommage que le centre en matière politique s'apparente à un trou noir. Pour l'éviter, il n'y a qu'une solution. Le centre doit comprendre l'évolution des gauches comme celle des droites pour pouvoir se positionner correctement et ainsi pouvoir prétendre être le véritable centre de gravité. Jusqu'à présent, seul Valéry Giscard d'Estaing l'avait compris en son temps. Oui, il est vrai qu'il avait fait Polytechnique, le garçon. Alors, messieurs des centres, vous savez maintenant le chemin qu'il vous reste à parcourir pour sortir du marais. Si vous voulez bien, on va un petit peu discuter de la chose. J'aimerais bien vous entendre sur cette petite chronique, qui n'est qu'une petite leçon de mathématiques. Vous en pensez quoi ?
La géométrie, c'est une belle discipline, mais la philosophie en est une autre aussi, et la politique est aussi une autre démarche. Et il ne faut pas être aussi manichéen que ce que vous l'avez été.
Non, mathématicien.
Le bien, le mal, le centre, la droite, la gauche. Je pense que c'est plus complexe, d'ailleurs, c'est ce qui fait que c'est plus passionnant, la politique, parce que si c'était aussi mathématique que ça...
Il y a un risque de trou noir, quand même, non ?
Oh non, il n'y a pas de risque de trou noir. Non, je crois que la vie est faite de relations humaines, Et ces relations, on les fonde sur des valeurs. Des convictions, mais aussi des valeurs. Et je crois que le principe des valeurs, il faut peut-être y revenir de temps en temps. Les valeurs, c'est la liberté, pour moi, c'est la première des valeurs, parce que je crois qu'on ne peut pas atteindre la liberté d'un individu, j'imagine que...
Donc vous êtes devenu quelque part un peu libéral.
Si être amoureux de la liberté, c'est être libéral, ça ne me pose aucun problème.
Ah, sachant qu'il est évident que vous n'êtes pas libertaire. Non. Donc vous ne pouvez être que libéral.
Non, non, je suis un amoureux de la liberté. Ça, pour moi, c'est une valeur, et c'est certainement la plus grande des valeurs. L'égalité mise au fronton avec la fraternité de nos édifices publics en France, ce sont des objectifs qui méritent à être en effet affirmés.
Sachant qu'aujourd'hui, il y en a qui sont plus égaux que d'autres.
Oui, mais l'égalité...
C'est pour ça que vous avez inventé, vous et vos amis, le principe d'équité, non ?
Oui. C'est un joli mot, ça aussi, l'équité.
Hein. Oui, c'est-à-dire, en fait...
Alors, on y met une notion de justice, là-dedans. Hein. Il faut que ce soit équitable, il faut que ce soit juste. Oui, voilà, tout ça, ce sont des valeurs. Et vous voyez, ces valeurs-là, à l'intérieur du cercle, je ne sais plus trop quelle est la position qu'elles doivent prendre. Ce sont des valeurs qui sont des véritables références. Elles sont incontestables,
justement, incontournables. Quand l'égalité se transforme en équité, et bien là, c'est que la droite a progressé, ce qui oblige le centre à se bouger.
Non. C'est les sociodémocrates anglais qui ont mis en avant le principe d'équité. Hein. Donc c'est dans le gouvernement Blair. Juste, il faut pas, c'est pas uniquement de la droite.
Ça, les blairistes, pardon, on les connaît suffisamment. Ça depuis 2007, ils ont même été incarnés au niveau du paysage politique français par Manuel Valls à l'époque.
Et ce qui est une singularité française, c'est que ces positions sont en minorité en France, parce qu'on a toujours en fait le PS qui a un problème avec l'économie de marché, alors que comment dire, vous avez au sein du Parlement européen, le Parti Socialiste Européen, c'est des gens qui représentent le blairisme, Schröder, alors qu'on condamne en France. Il faut arrêter. Nous, on est des libéraux dans le sens politique du terme. Et je pense que si on fait confiance à l'individu, on pense que comment dire, l'individu est capable d'énergie, capable de créer des richesses, capable de réflexion.
Vous êtes même carrément rousseauiste, alors.
Peut-être simplifié, mais...
On a un voltairien, c'est notre radical, on a un rousseauiste... Alors, le troisième, il est quoi pour l'encyclopédie de Diderot
Mais écoutez, si voilà de belles références. Hein,
voilà. Si je vous attends, ce que vous reprochez...
Et tout d'un coup, il y a le studio qui s'allume, c'est les lumières qui arrivent.
C'est ça, voilà. On a reconstitué le mouvement des Lumières.
C'est exactement. Et c'est ça, hein, le centrisme, hein, au départ. Bah, vous savez, c'est Tocqueville. Hein,
alors, ce que vous reprochez aux socialistes, c'est en fin de compte d'être venu au centre.
Non, non, au contraire. C'est ça. Voilà. C'est, au contraire, c'est ce déportement
c'est
sur la
trop de monde au centre. Là.
Non, c'est au contraire. Regardez, ce déportement, en fait, sur l'extrême gauche du PS. C'est avec...
Oula, l'extrême gauche du PS. Oula. C'est même pas le début de la gauche.
Oui, vous considérez Montebourg comme... l'extrême gauche du PS.
Oui, totalement. Alors, effectivement, il y a démondialisation, alors que la France est l'acte principal de la mondialisation.
Il y a un glissement de la France en droite.
Ah non, c'est quand même le nouveau centre, si j'ai bien compris. Vous êtes à l'extrême droite du centre, alors.
Tout à fait.
Voilà. Non.
J'aimerais bien qu'on parle un peu programme.
Oui.
Au niveau programme, tous les trois, quelles seraient vos exigences programmatiques incontournables pour dire si ça, c'est pas respecté, je ne me rallie pas, ou à Sarkozy, ou à Hollande, peu importe. Alors en matière de politique intérieure, en matière de politique européenne, en matière de politique internationale, quelles seraient vos exigences en disant « ça, s'il n'y a pas ça, négatif, moi je ne suis pas ».
En termes d'idées neuves, je pense que déjà, je pense que si on peut faire une synthèse, c'est l'inscription de la règle d'or dans la Constitution. Ça suffit avec les déficits publics, comme on parlait depuis 30 ans. Et je pense que les trois autour, on est tous d'accord sur cette thématique. C'est donner...
Non, vous êtes germanisé, quoi.
Mais ça n'a rien à voir avec la Germanie, avec l'Allemagne. C'est la rigueur budgétaire, c'est nos enfants, c'est nous qui vont financer, en fait, et qui n'auront plus de retraite, n'auront plus de prestations sociales, parce qu'en fait, on est un pays où il y a de plus en plus de personnes âgées, et c'est très bien, parce qu'il y a une qualité de vie. Mais de l'autre côté, il faut préserver ce système de répartition des retraites.
De toute façon, je vous invite à écouter Provoscopie dans 15 jours,
oui.
Parce que dans 15 jours, nous inviterons exclusivement que des Allemands. de la maison d'Heidelberg. Oui, oui, oui. Ah, puisque étant donné que dorénavant on vit en Allemagne, j'aimerais bien avoir la position des Allemands pour savoir un peu ce qu'ils pensent.
Le cliché.
Qu'ils nous disent un petit peu où on en est. Je rappelle que l'édition s'appelle Provoscopie.
Nous sommes les premiers à anticiper.
Yves Le Bozec, je vous l'avais dit, je suis malheureusement contraint par le temps et je suis obligé de partir. Donc, à moins le quart, je voulais dire par rapport à votre question et à ce qui a été dit, je pense qu'en effet. La lutte contre les déficits publics, c'est quand même une démarche qu'il faut que nous ayons tous en tête. Il faut tout simplement, sans dire qu'on est venu à la méthode germanique, on est simplement dans une démarche qui consiste à dire qu'on ne dépense pas plus que ce qu'on
gagne. On ne dit plus germanique, maintenant on dit bismarckienne.
C'est
Montebourg.
On ne dépense pas plus que ce que l'on gagne. Je crois que ça, c'est quelque chose qui doit être vraiment perçu comme étant un objectif, parce que regardez aujourd'hui.
On fait un petit coup d'inflation.
Mais ça, il faut l'expliquer.
C'est sympa. On emprunte des sous, on fait un petit coup d'inflation, et puis on aura pratiquement rien.
Mais il faut l'expliquer au candidat Hollande, hein, parce qu'avoir être président d'un département un des plus endettés de France, et l'autre côté qui nous explique.
Si vous le permettez, avant de partir, je pense que donc, moi, la lutte contre les déficits publics est un impératif, et qui, de toute façon, s'imposera à tout le monde. Hein, voilà, hein,
il faut revoir peut-être la logique des prélèvements.
Moi je dis que ce qui a été promis dans le programme...
Enfin derrière le modem, quoi.
Dans le programme du Parti Socialiste me paraît totalement inconséquent. Hein, c'est très grave. Ce que je voudrais mettre aussi une dose d'Europe dans notre débat, parce que je crois que on ne pourra pas échapper à une démarche concertée. Je l'ai dit, moi je suis fier d'être français, mais je sais très bien que je ne pèserai pas dans le concert de la mondialisation si je n'ai pas la capacité de construire...
Là, vous devenez mitterrandien.
C'est d'aller chercher les bonnes idées là où elles se trouvent et de laisser de côté les mauvaises. Donc je pense qu'on ne fera pas l'impasse d'un véritable débat. Et puis
Robert Lecoux, vous êtes complètement sur la bonne ligne là. Du coup, abandonnez Sarkozy.
Non, pas du tout. Alors,
rejoignez-nous. Et je reviens à la majorité nouvelle que nous voulons créer.
Oui, non, mais vous savez pas où vous êtes, vous encore. Alors, donc ça m'inquiète. Moi, je sais où je suis.
Centre.
Oui, non, mais au centre. Mais le deuxième tour, que sera-t-il? Ce n'est pas possible de laisser.
Juste avant que vous partiez.
Oui. Je suis clair là-dessus.
Petite question, puis après les deux autres répondront. Bon, au deuxième tour des présidentielles, Robert Lecoux, vous appelez à voter pour qui?
D'abord, ce que je souhaite, c'est qu'au premier tour, Nicolas Sarkozy se retrouve face à la gauche. Je ne voudrais pas qu'il y ait un 21 avril à l'envers ou à l'endroit. Ça ne m'intéresse pas.
Si jamais c'est le cas, Hollande, Le Pen au deuxième tour.
Je ne me configure pas dans cette posture-là. Et au deuxième tour, je voterai Nicolas Sarkozy parce que c'est lui qui a montré le courage qu'il faut.
Et si c'est Hollande-Le Pen, imaginons.
Non mais attendez, moi je vous dis que je ne veux pas imaginer ça. Et aujourd'hui, je le dis très clairement, pour moi, la démagogie de gauche n'est pas acceptable et le populisme de l'extrême droite est quelque chose qu'il faut combattre. Voilà. Et donc au premier tour, il y aura, et je le souhaite, la gauche qui se retrouvera confrontée face au centre et à la droite, parce que je considère que le centre, aujourd'hui, est dans la raison à droite et avec la droite. Et à partir de là, je voterai pour Nicolas Sarkozy, qui est le président de la République, qui a su faire face à ces crises qu'on a évoquées tout à l'heure et qui a montré un certain courage. Certes, il y a des côtés et des comportements qui m'agacent. Je ne suis pas sarcomaniaque. Hein, et je trouve qu'il a fait des erreurs et qu'il y a des comportements désagréables. Mais qui autour de la table aujourd'hui est capable d'avoir un comportement parfait? À qui ne va-t-on pas jeter la première pierre? Et je pense que ces points-là méritent à être peut-être relativisés par rapport au courage qu'il a eu. Et aujourd'hui, je vois, en étant membre de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, que la France a une position qui est respectée dans le concert des nations. Et ce n'est pas si inintéressant que ça, à une époque où la mondialisation, et qu'on le veuille ou non, avec nous, et on ne pourra pas s'en séparer aussi facilement que cela. Voilà. Merci à la pertinence et à l'impertinence de vos propos.
Et puis à très bientôt. On va se retrouver non seulement pour les présidentielles, mais aussi
pour les législatives.
Mais
oui. Vous savez qu'on a modifié ma circonscription, puisque maintenant j'avais.
Le on est un pronom indéfini et malhonnête. Le on, il s'appelle Marlex, c'est-à-dire un ami à vous.
Et avec lequel je me suis attrapé sur cette affaire-là. Mais que voulez-vous? Vous savez, en 1993, la seule circonscription qui ne soit pas passée à droite, c'est celle que j'ai conquise en 2002.
Quand on n'est jamais prophète en son pays. Quoi.
C'est difficile, mais ce qu'il faut, c'est être sur le terrain. Je le disais c'est tout à l'heure au renard, il faut être à l'Assemblée nationale, mais il faut aussi être auprès des Français. Je salue le renard, Yves Le Bozec et mes amis du centre.
Il faut être aussi à l'Assemblée nationale.
Alors, justement, pour le nouveau centre, Olivier,
oui.
Deuxième tour.
Oui. Alors, deuxième tour, l'idée, c'est...
Sarko, Hollande ou personne?
C'est deuxième tour, Hervé Morin.
Non.
L'idée générale,
non,
c'est
non,
ça,
pour
la présidentielle.
On n'est pas ni sur Europe 1, ni sur France 2.
L'idée, c'est Hervé Morin au second tour.
Non,
ça, c'est clair. Non, mais c'est en même temps, c'est faire un clin d'œil à votre première question. Tout candidat à la présidentielle, il veut gagner la présidentielle. Au-delà, il y en a qui disent que
c'est
candidature de témoignage, mais au-delà de ça, c'est...
On est là pour défendre un courant d'idées, des idées, un programme qu'on veut retrouver au second tour.
Exactement.
Ah, mais retrouver au second tour, c'est... une autre chose, on retrouve partie ou totalité du programme au second tour, c'est une chose. Moi, je ne vous parle pas de programme, je vous parle de candidat. Au deuxième tour, Robert Lecoux le disait, la logique voudrait que ce soit Sarko-Hollande. Donc, dans ce cas-là, vous faites quoi?
Alors, ce qui est déjà, il y a une réalité. Quand on vous parle de tout ce qui est sur les déficits publics, on a une réalité. Donc...
Il n'a pas compris ma question.
Si, j'ai compris votre question, puisque je vais vous répondre. C'est qu'on a, nous, énormément de mal avec la candidature de François Hollande, puisqu'il est président d'un département qui est un des plus endettés de France et qui vient de recevoir...
C'est le scoop de...
Non. Et qui vient de recevoir une aide spéciale du gouvernement pour les aider à lutter contre leur déficit public. Alors, et en même temps, on a un candidat socialiste qui nous explique comment il va faire améliorer le pays. Et donc, on voit à travers son programme qu'on sait qu'il va y avoir augmentation des impôts et il va avoir foncièrement un endettement public plus fort.
Bah non, il va quand même pas faire du sarkozisme. il a créé 30 nouveaux impôts depuis 2007.
Donc la situation au second tour, on verra dans les accords de gouvernement qui va être mis en place. Ça, c'est clair que par nos positions...
Je pense que M. Morin nous a déjà dit lors de sa déclaration de candidature ce qu'il voulait faire au second tour. Il a dit qu'il se présentait pour que M. Sarkozy soit, en espérant que M. Sarkozy soit réélu.
Non.
Et en sauvant le groupe parlementaire.
Non, il a dit ce qu'il veut avant tout, c'est que comment dire que le centre soit respecté par la majorité. Et par exemple, sur la thématique de la règle d'or, il demande cela depuis de nombreuses années. L'équipe vous parliez de François Bayrou, mais Bayrou était dans l'UDF, Hervé Morin était dans l'UDF, Charles de Courson était dans l'UDF. La règle d'or sur les déficits publics, pourquoi attendre? Donc, comment on sait que la vie publique, c'est un rapport de force? Foncièrement, si on veut représenter nos positions, nos valeurs, on est obligé d'avoir un candidat à la présidentielle et Hervé Morin l'incarne totalement. Et sur des questions très fortes, et il apporte des idées neuves. Donc après, il y aura un accord de gouvernement ou pas. Et on verra comment ça se passe. Mais c'est vrai que les positions du nouveau centre, majorité.
J'ai envie de vous poser une question.
Avec l'OPS.
J'ai envie de vous poser une question. Vous, Montpellier-Rennes, ouais. Nouveau centre, est-ce que vous êtes pour cette candidature d'Hervé Morin? Parce qu'on a bien vu quand même qu'autour de lui, ses principaux lieutenants, sont pas forcément...
Mais tous, c'est les principaux lieutenants, parce que c'est les problématiques, c'est pas les lieutenants.
Je voulais savoir si vous qui n'êtes pas député,
juste une précision, je vous réponds, c'est que la majorité des militants du nouveau centre, à 90%, soutiennent Hervé Morin.
Donc il faut faire la différence entre les militants et les députés,
Et c'est pas les députés, on parle de deux députés, Jean-Christophe Lagarde...
Et pensez-vous obtenir 500 signatures?
Les 500 signatures, non. Oui, il les a. Puisqu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on parle du Modem, du Parti Radical, le Nouveau Centre, c'est la troisième force politique en France, entre le groupe à l'Assemblée Nationale, où il y a 25 députés Nouveau Centre, et le groupe au Sénat et les élus locaux.
Oui, mais
le
nous sommes indépendants. Vous oubliez le député de Mayotte.
Emmanuel, il faudrait répondre aussi à la question. Au deuxième tour,
oui.
Alors vous votez pour qui?
Personnellement, ou ouais. Personnellement.
Ah bah non, le Modem, personnellement.
Le Modem, je vous le dis, à situation exceptionnelle, solution exceptionnelle. Ce que nous voulons, c'est une majorité nouvelle pour mettre en place les réformes.
Donc
vous
ils voteront à gauche.
Vous savez, en...
Non mais concrètement, on a eu Robert Lecoux qui nous a dit « je voterai Sarko ». Olivier qui nous a dit « je voterai contre Hollande ». Bon, on comprend comme on veut. Vous avez voté quoi?
Moi, je voterai contre la politique de Nicolas Sarkozy, c'est évident.
Donc contre Sarkozy.
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire, c'est un peu comme Olivier qui va voter contre Hollande, donc pour Sarkozy. Vous, vous allez voter contre Sarkozy, donc pour Hollande.
Ou pour François Bayrou.
Oui, non, mais ok.
Attention.
Oui, oui. Ou pour Philippe Poutou s'il arrive au second tour.
Éventuellement. Bon,
voilà. Donc,
non, mais je pense que.
Encore moins.
Au-delà, j'aimerais bien que vous m'expliquiez, parce que là, ça peut poser des problèmes, y compris notamment financiers. C'est quelle va être votre ligne politique pour les législatives à venir.
Ouais.
Est-ce que le Nouveau Centre, est-ce que le MoDem, est-ce que vous allez présenter des candidats dans toutes les circonscriptions ou pas? Et quelle négociation et avec qui serait envisageable? Par exemple, je ne sais pas, le Nouveau Centre qui dit, moi je me présente là, mais donc l'UMP ne se présenterait pas là, ou réciproquement, le MoDem, la même chose, avoir une circonscription ou deux ou trois ou dix, enfin ou cinquante, peu importe, mais que la gauche, entre guillemets, réserverait au MoDem. Alors, où est-ce que vous en êtes? Et puis, personnellement, l'un comme l'autre, vous allez être candidat ou pas aux législatives?
Alors,
Olivier, pour le Nouveau Centre.
Alors, en ce qui concerne le Nouveau Centre, moi, en tant que délégué départemental, je peux vous dire qu'il va y avoir des candidats du Nouveau Centre sur les élections législatives au niveau national dans nombreuses circonscriptions. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une réalité, comme vous le mettiez justement, le groupe à l'Assemblée nationale est dans la majorité, donc il va y avoir, en général, soit des accords, en tout cas des négociations pour voir comment...
Et dans les roues ?
Et dans les roues, il y aura des candidats Nouveau Centre, c'est prévu. Pour l'instant...
Sur quelle circonscription ?
Les circonscriptions, sont, pour tout vous dire, ne sont pas définies et on a à l'heure actuelle des candidats. Et il y a un grand congrès qui aura lieu fin janvier, début février, un congrès national du Nouveau Centre qui, là, va en acter et préciser officiellement les candidatures pour, dans le cadre de l'Hérault. Mais le Nouveau Centre revendique une ou deux circonscriptions...
Dans l'Hérault.
Dans l'Hérault.
Une ou deux circonscriptions acquises, gagnables ou perdues d'avance?
Gagnables.
Et,
voilà. Et de l'autre côté, ce qui va se passer, c'est qu'on verra les rapports de force existants, mais il est normal que le Nouveau Centre ait des candidats, et il est totalement légitime qu'ils aient des candidats dans l'Hérault.
Est-ce qu'il est exclu qu'il y ait candidat Nouveau Centre et candidat UMP sur une même circonscription?
Ce n'est pas exclu.
C'est pas exclu.
Ce n'est pas exclu.
Et alors, le MoDem, alors?
Alors, le MoDem, moi, je pense de toute façon que tous les accords qui existent tomberont au soir du premier tour, parce que vraiment, au soir du premier tour, que les vrais accords vont se passer, savoir qui va faire quoi, qui va aller avec qui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'accord Parti Socialiste Europe Écologie Les Verts, par exemple, me fait bien rire, moi. Mais nous, au MoDem, nous essaierons, oui, nous aurons des candidats le plus possible. Nous proposerons nos noms, nous, autour de Marc Dufour, nous proposerons nos noms à l'équipe qui dirige actuellement le MoDem et Héraultais pour leur proposer nos candidats, pour pas qu'ils... Et nous verrons...
Mais là, ça va être non, parce que...
Ça, vous savez, Hadj Madani n'a pas beaucoup de poids sur Montpellier. Il a surtout ses proches dans le lot des voix.
Vous risquez de faire une dissidence même
Une dissidence, non. Il y aura un candidat MoDem.
Mais par contre, il faut être clair.
Il y a quand même une rumeur interne au niveau du MoDem, qui dit que Marc Dufour serait candidat sur une circonscription.
Ils sont en train de négocier avec les socialistes, donc il faut être clair, respecter les gens. Après, nous, Nouveau Centre, on nous dit vous allez voter au second tour Sarkozy. Non, nous, on sait où on se situe. On a plus historiquement, la famille centriste est inscrite plus centre-droit, mais on a des différences flagrantes avec la majorité, avec le gouvernement Fillon et avec Nicolas Sarkozy. C'est pour ça qu'Hervé Morin se présente. Et de l'autre côté, quand on entend des discours en disant le MoDem est indépendant, alors qu'on sait très bien que les élus MoDem siège avec la majorité socialiste, comment voulez-vous? On sait très bien qu'ils vont faire des deals avec le PS. Donc la position du MoDem, après il y a une question d'honnêteté intellectuelle vis-à-vis des gens. On sait
Vous me parlez d'honnêteté intellectuelle alors que vous faites exactement la même démarche mais dans l'autre sens.
Mais non, pas du tout.
Mais si.
Mais non. Mais justement pas. C'est pas dans l'autre sens. C'est que comment François Bayrou se dit je suis indépendant et libre alors que le MoDem siège dans la majorité socialiste à l'agglo de Montpellier et à la ville de Montpellier. Et c'est après.
Si je peux me permettre, ce que vous dites au niveau des candidats Nouveau Centre,
oui.
Vous êtes déjà dans la majorité actuelle.
Mais,
Donc à partir de ce moment-là, je veux dire, la question même que Loulou vous a posée, à savoir pour qui vous voterez au second tour, la mesure où déjà au préalable, il y a des accords qui ont été convenus. Donc à partir de ce moment-là, vous êtes déjà dans la majorité.
On est dans une majorité, totalement.
Donc en fin de compte, bon, vous êtes sur une position qui est beaucoup plus claire. Hein,
totalement.
Que éventuellement celle
du
MoDem.
Voilà, et c'est ce qu'on veut dire. Après que...
Mais donc c'est bien ce que je dis, vous êtes en quelque sorte... c'est une candidature qui peut se concevoir comme une épine à François Bayrou.
Oh, une petite épine. Hein,
je ne sais pas. Comme une épine et que justement, vous êtes là pour... je reprends mes mots. Comme une digue ou un avant-poste.
Est-ce que vous pensez que les Verts, c'est une digue ou un avant-poste du PS? Je ne pense pas. Là, à l'heure actuelle, pourquoi Eva Joly, elle n'est pas créditée de
5%. Je
ne pense
pas que ce soit une digue.
Donc voilà, il y a une candidature. Bon, on dit Hervé Morin, ça serait une candidature.
Il nous reste deux toutes petites minutes. J'aurais une dernière question pour tous les deux. Elle est toute bête. À quoi il sert le centre?
Force de proposition.
Là, on se rejoint. Voilà. Vous faites d'oxygène dans la vie politique française qui veut être structurée que pour la gauche ou par la droite.
Et qu'il existe autre chose que la droite et la gauche en France.
Et qu'on peut apporter d'autres idées.
Et qu'on soit de centre-droit ou de centre-gauche. Je pense que là-dessus, on se rejoint sur ce point. C'est qu'on a besoin d'un centre en France.
Totalement.
Bon, tout cas, il y a une chose qu'on aura compris, je crois, au terme de ces 90 minutes, c'est que c'est pas gagné pour l'unité du centre. Parce qu'il y a une question que j'avais prévue, mais je voulais même pas poser, parce qu'elle n'a plus de sens, c'est pourquoi vous vous alliez pas? Pourquoi vous vous mettez pas tous ensemble? Là, on a compris, remarquez, vous êtes sur divergence, on a compris que vous divergiez vraiment très sérieusement.
Précision, l'alliance du centre, c'est fait, avec Borloo, Hervé Morin.
Une partie du centre.
Et voilà, et donc les quatre composantes.
Mais dans le cadre de j'aurais l'impression d'entendre le PSU début des années 60, le Parti Socialiste unifié, qui représentait 2%. Oui,
mais après, il a fait un bon score. Donc, on verra dans le futur combien le centre et le nouveau centre fera sur le long terme.
Alors, quoi qu'il en soit, la révolte n'est pas un droit, mais un devoir.
Provoscopie, c'est en direct tous les lundis à 12h30, rediffusion intégrale à 17h30.